Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission pour la dignité, cette émission pour les droits humains sur Fréquence Mistral, toujours avec Régis Coulanges, responsable formation Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Alors dans cette émission, nous allons parler de l'esclavage et du colonialisme. On parlera également de la peine de mort parce qu'Amnesty a sorti son rapport annuel qui dresse l'état du monde concernant la peine de mort. On parlera de la criminalisation de Géza Bouza Abel en Hongrie, de la Coupe du monde de football qui va avoir lieu en juin. On écoutera Juliette Vanier qui a participé à Digne d'éloquence avec son texte Le regard des autres. Et puis on parlera de l'action des groupes, du groupe dinois. Voilà, alors pour commencer, l'esclavage et colonialisme, parce que c'est très lié. Plus de 15 millions d'Africaines et d'Africains ont été asservis à travers le monde par des Européens et ont été envoyés par bateau vers les colonies des Amériques depuis le début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. C'est ce qu'on appelle la traite transatlantique. On estime que 2 millions de personnes qui ont été arrachées à leur territoire ont perdu la vie lors de la traversée de l'océan Atlantique. Les empires coloniaux bâtis par des puissances européennes ont duré près de 4 siècles. Ils se sont peu à peu étendus jusqu'à représenter près de 80% de la surface du globe. Durant des siècles, les siècles de règne impérial, les puissances coloniales européennes ont commis d'innombrables atrocités et crimes de masse à l'encontre des peuples autochtones et des populations colonisées, tels que le génocide, l'asservissement et la torture. Parmi les violences du colonialisme figurent la privation de l'autodétermination, la confiscation de terres aux peuples autochtones, l'imposition de frontières coloniales, le pillage des ressources naturelles, l'exploitation par le travail de peuples réduits en esclavage et colonisés et la destruction des langues, des cultures et des savoirs locaux. L'esclavage légalisé en France par le Code noir. Vous avez entendu que l'Assemblée nationale a supprimé enfin ce Code noir dans les textes du pays. La France était l'une des plus grandes puissances esclavagistes du monde lors de la traite transatlantique. Aux Antilles, en Guyane et dans l'océan Indien, elle a réduit en esclavage plus d'un million de personnes. En 1685, Louis XIV promulgue le Code noir. Cet ensemble de textes juridiques crée un statut d'exception pour les territoires colonisés par la France par rapport au droit français, légalisant de fait l'esclavage. Dans ce corpus de textes, les esclaves sont décrits comme des biens meubles dont les propriétaires peuvent disposer à leur guise. Ils autorisent les châtiments corporels sur les esclaves comme la marque de fer ainsi que la peine de mort. Alors que l'esclavage a été aboli deux fois en France, en 1794 et en 1848, le Code noir n'a jamais été formellement abrogé dans la loi française. Il vient de l'être récemment. Les députés de Guadeloupe, Max Mathiassin, a déposé une proposition de loi pour l'abroger, ce qui vient d'être fait. La France est le premier pays au monde à reconnaître la traite négrière et l'esclavage colonial comme un crime contre l'humanité avec la loi Taubira du 21 mai 2001. Quelques mois après, la conférence Durban de 2001 en Afrique du Sud va permettre la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme un crime contre l'humanité à l'échelle mondiale. Le 25 mars 2026, l'Assemblée générale des Nations unies vote une résolution qui qualifie la traite transatlantique de plus grave crime contre l'humanité et exige des réparations pour remédier au tort historique. L'Argentine, Israël et les États-Unis ont voté contre cette résolution et 52 pays du Nord se sont abstenus, dont la France. Selon le droit international, les victimes de crimes internationaux et de violations des droits humains ont droit à des réparations. Les réparations sont l'ensemble des mesures qu'un État responsable d'une violation du droit international doit prendre pour remédier au préjudice causé. Alors, il y a différents types de réparations. L'indemnisation, c'est une somme d'argent octroyée par un État aux personnes affectées afin de réparer les dégâts, le préjudice ou les pertes subies. La réadaptation, cela peut inclure des soins médicaux et psychologiques, mais aussi des services juridiques et sociaux. La restitution implique le rétablissement des victimes dans la situation qu'elles auraient occupée si le préjudice n'avait pas été causé. La réhabilitation, des mesures destinées à faire cesser les violations persistantes. La vérification des faits et la divulgation publique de la vérité dans la mesure où ces révélations ne causent pas davantage de préjudice ni de menace, ni ne menacent la sécurité et les intérêts de la victime ou des excuses publiques. Garantie de non-répétition inclut des mesures visant à prévenir les préjudices et les violations des droits humains à l'avenir en s'attaquant aux causes profondes. Voilà, on va écouter une chanson de Jean-Christophe Jeanne qui parle justement du chant de marin esclave.
C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier quand je suis parti de la ville de Nantes. Je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne. La route du bois d'ébène, oh, 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 oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier. Sur les côtes africaines, j'ai vu des hommes enchaînés par dizaines. Les malheureux sont traités comme des bêtes. La nuit, le jour, sans pitié, on les fouette. Chaque jour, et les plus faibles qui passent tour à tour. Oh, 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 oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris des hommes. Que j'ai laissé ces hommes nus dans leurs chaînes. Depuis ce jour, la mémoire me tourmente. Dès que je suis dans cette ville de Nantes, oh, 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 c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Thank you.
Voilà, alors on continue de parler d'esclavage et de colonialisme, qui ne sont pas seulement des crimes appartenant au passé, hein, puisque l'esclavage moderne existe encore dans certaines parties du monde, et même l'esclavage traditionnel, si on peut dire, existe encore dans certains pays, je pense notamment à la Mauritanie, où des arabo-berbères riches maintiennent en esclavage des personnes noires dans la communauté des Haratines. Voilà, les conséquences de l'empire colonial européen persistent dans notre société actuelle. Les richesses amassées par les États anciennement colonisateurs par le biais de l'esclavage et du colonialisme ont donné lieu à de profondes inégalités qui continuent à peser sur l'ordre mondial. Le racisme présent dans nos sociétés actuelles trouve également ses origines dans l'esclavage et la colonisation. La déshumanisation des personnes et la hiérarchisation en fonction de supposées races étaient en effet au cœur du projet colonial européen. Au cours des 4 siècles de la domination coloniale européenne, l'identité raciale supposée est devenue le critère de répartition du pouvoir entre les populations. Les populations sont catégorisées, hiérarchisées, en fonction de leur couleur de peau. Ce système racial de séparation du pouvoir perdure encore dans la société aujourd'hui. Les personnes racisées, les populations autochtones, sont confrontées à l'héritage persistant de ces pratiques discriminantes. Accès inégal à la santé, inégalité économique, contrôle aux faciès, incarcération excessive. Je vais vous parler du cas d'Haïti. Il y a 200 ans, en 1825, la France imposait à Haïti une dette d'indépendance. Une indemnisation imposée par la violence en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. L'essentiel de l'activité économique haïtienne a été assujetti au remboursement de la dette d'indépendance jusqu'à son remboursement total au bout de 122 ans. Aujourd'hui encore, le poids de la dette continue à paralyser le pays. Les inégalités structurelles et les crises des droits humains qui frappent le pays sont en partie le résultat des injustices raciales historiques que représentent l'esclavage et le colonialisme imposés par la France. C'est pourquoi nous soutenons, à Amnesty International, les demandes de réparation de la société civile haïtienne auprès de l'État français. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1848, puisque Napoléon l'avait rétabli, la France a versé des réparations. Mais celles-ci n'étaient pas destinées aux victimes de l'esclavage. Elles ont au contraire été versées sous forme de compensation économique aux anciens propriétaires d'esclaves avec la loi d'indemnisation de 1849. En 2001, la loi Taubira reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La priorité est donnée au devoir mémoriel, pas la question des réparations financières laissées de côté. La récente abstention de la France au vote de la résolution de l'ONU qui reconnaît la traite et l'esclavage comme le pire crime contre l'humanité et qui exige des réparations montre à nouveau le manque d'engagement de la France sur la question des réparations alors même qu'elle a une responsabilité historique. Bon nombre d'États qui ont bénéficié et qui tirent encore profit de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme, continue de nier l'existence d'un devoir de réparation en vertu du droit international pour ces torts historiques. Ces États, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France, utilisent souvent l'argument que l'esclavage et le colonialisme n'étaient pas interdits par le droit international à l'époque où ces pratiques avaient cours et qu'il n'y a donc pas eu de violation du droit international qui puisse entraîner une obligation juridique d'accorder des réparations. C'est le principe de l'intertemporalité. Le plus grand obstacle aux réparations pour le colonialisme et l'esclavage tient à ce que les principaux bénéficiaires de ces deux phénomènes n'ont ni la volonté politique ni le courage moral d'offrir ces réparations. C'est ce qu'a dit la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance des Nations Unies. En 2019. Des groupes s'organisent à travers le monde pour obtenir des réparations au titre de l'esclavage et du colonialisme. Si de nombreux États continuent à s'opposer à ces demandes, des avancées ont été obtenues grâce aux luttes de longue haleine menées par les descendants des victimes. en Belgique, le pays a été reconnu responsable du crime contre l'humanité par la Cour d'appel de Bruxelles en 2024 et a été condamné à verser des réparations pour l'enlèvement et la ségrégation raciale systématique d'enfants métis au Congo, colonisés par la Belgique. Au Canada, le gouvernement canadien a accepté de verser plus de 2 milliards de dollars en janvier 2023 pour réparer les dommages causés aux victimes de retraits forcés d'enfants autochtones et leur placement dans les pensionnats. Environ 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille, de leur identité et de leur culture. En Nouvelle-Zélande, le Congrès a adopté en 2022 une proposition de loi en faveur d'une indemnisation à hauteur de 177 millions de dollars néo-zélandais pour une tribu maori et de la restitution de 36 sites ayant une signification culturelle. Les réparations ne se limitent pas au rétablissement de la justice pour les torts historiques causés par l'esclavage, la traite des esclaves et le colonialisme. Elles impliquent également le démantèlement ou la transformation des structures et systèmes contemporains de discrimination, de soumission et d'inégalité raciale mis en place à l'époque de l'esclavage et du colonialisme. Les réparations concernent donc notre avenir et notre présent tout autant que notre passé. On va maintenant écouter un collectif qui s'appelle Tous les Mêmes, Stop à l'esclavage.
Pendant combien de temps, pendant combien de siècles, l'histoire va-t-elle se répéter? Combien de temps humilierons-nous l'humanité? Combien de femmes, combien d'hommes sont épris de liberté? L'Eldorado c'est ici et nulle part ailleurs. Quitte sale chez moi, je fais de toi un notable. De passage chez toi, tu fais de moi. Les mêmes, le même sang coule dans nos veines.
J'suis parti de loin avec mes rêves, laissant famille et bien chez moi. Y'a rien là-bas, c'est mieux, je me disais. Eh bien, si je savais, fin du rêve en une seconde. Demain c'est loin, homme noir, plein d'espoir, devenu or noir, arc à la fin du cauchemar.
Je suis peut-être noir de peau, mais pas noir dans la tête. Toi t'es blanc de peau, mais plus que sombre dans la tête. T'aspires à une vie meilleure, mais regarde où ça te mène. T'abandonnes ta famille pour être victime de bassesse humaine.
Tu t'installes chez moi, je fais de toi un notable. De passage chez toi, tu fais de moi un esclave. Mes ancêtres ont tant souffert de la traite négrière.
Nous sommes tous les mêmes, le même sang coule dans nos veines.
Ona.
Voilà. On va maintenant parler de la peine de mort, parce que Amnesty vient de sortir son rapport annuel sur l'état de la peine de mort dans le monde. 2707 exécutions ont été recensées dans notre rapport annuel. C'est un record depuis 1981, année particulièrement symbolique en France, puisqu'elle marque l'abolition de la peine de mort dans notre pays au terme d'un combat porté par Robert Badinter. À cette époque, il n'y avait que 27 États à avoir aboli la peine de mort. Depuis, la liste s'est allongée avec une marche progressive vers l'abolition du châtiment le plus cruel et inhumain qui soit. En 2025, ils sont 113 pays à l'avoir totalement aboli dans la loi et pour tous les crimes. Comment alors expliquer ce record d'exécution en 2025 ? Une petite poignée de pays a redoublé son recours à la peine de mort. D'un côté, des pays aux pratiques autoritaires comme l'Iran et l'Arabie Saoudite tentent par tous les moyens de réduire au silence la dissidence, y compris en ayant recours à la peine capitale. De l'autre, de nombreux pays comme la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït et Singapour exécutent encore au nom de la répression de la criminalité. Près de la moitié des exécutions en 2025 étaient faites au nom de la guerre contre la drogue. Si les exécutions ont explosé dans le monde en 2025, l'Iran y a largement contribué. Face à la contestation, les exécutions ont redoublé. En République islamique iranienne, la peine de mort est utilisée comme une arme contre les opposants au pouvoir. Une tendance réaffirmée lors des massacres qui ont visé les manifestations au début de l'année 2026 et depuis le début du conflit au Moyen-Orient, puisque presque chaque jour en Iran, des jeunes, souvent, sont exécutés. Dès son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025, Donald Trump s'est empressé de signer un décret ordonnant de requérir systématiquement la peine de mort pour les crimes les plus graves. Le président américain a franchi une nouvelle étape en avril 2026. Il a annoncé l'élargissement, au niveau fédéral, des modes d'exécution autorisés au-delà de l'injection létale, peloton d'exécution, électrocution et inhalation de gaz mortel. Des pratiques abjectes autorisées dans certains des 27 États où la peine de mort est en vigueur. Cette augmentation du recours à la peine de mort menée par un petit groupe d'États s'inscrit dans un contexte global où les progrès vers l'abolition se sont poursuivis. Près des trois quarts des pays du monde ont désormais aboli la peine de mort, que ce soit en droit ou en pratique. Voilà, donc vous pouvez trouver le rapport annuel sur le site d'amnesty.fr ou amnesty.org. Voilà, on va maintenant écouter une chanson de Brassens qui s'appelle Le Gorille et qui finalement, réfléchissant, est une chanson contre la peine de mort.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean-Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, sondant dignement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory, bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory,
voilà, on se lasse pas d'écouter encore Brassens. Je vais vous parler maintenant d'une criminalisation de Geza Bouza Abel, qui est un organisateur de la Marche des Fiertés de PEX, qui se trouve en Hongrie. C'est du jamais vu au sein de l'Union européenne. Pour avoir organisé une Marche des Fiertés, Geza Bouza Abel est poursuivi par les autorités hongroises. S'il est déclaré coupable, il encourt jusqu'à un an d'emprisonnement. Signez notre pétition pour exiger le retrait des charges qui pèsent contre lui. Cette pétition, vous la trouvez donc sur le site amnesty.fr et vous verrez que vous avez plusieurs pétitions que vous pouvez signer également. Depuis février 2026, l'enseignant en langue et culture roms et défenseur des droits humains, Geza Bouza Abel, est visé par une enquête de police. Son crime ? Avoir organisé une marche des fiertés dans la ville de Pécs, située dans le sud de la Hongrie. Les accusations dont il fait l'objet s'appuient sur une loi discriminatoire promulguée en mars 2025 qui interdit les marches des fiertés dans le pays. La loi prévoit notamment des amendes pour les participants et participantes et des sanctions pénales pour les organisateurs et les organisatrices. Parce qu'elle viole les droits des personnes LGBTI+, à pouvoir s'exprimer et se réunir librement, cette loi est rétrograde et discriminatoire. Le 21 avril 2026, la Cour européenne de justice de l'Union européenne a ainsi statué qu'elle enfreignait le droit européen à plusieurs égards. Les charges qui pèsent actuellement sur Geza sont symptomatiques de la répression contre les personnes LGBTI+, en Hongrie. Mais elles sont aussi un véritable signal d'alarme face à l'ampleur des attaques des mouvements anti-genre partout en Europe, y compris en France. Organiser une marche pour l'égalité ne devrait jamais être considéré comme un crime. C'est un acte de courage, d'espoir et de résistance face à l'offensive des mouvements anti-droits. Signez notre pétition pour exiger du procureur général de PEX, en charge du dossier visant Geza Bouza Abel, qu'il abandonne immédiatement les charges qui pèsent contre lui. Voilà, nous allons maintenant écouter Calogero dans sa chanson « J'ai le droit aussi ».
Semblant. Que dira ma mère? m'a-t-elle toujours autant? Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Que diront les gens? Ils plaindront mes pauvres parents. Que dire à ces gens qui me trouvent trop différent? Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Tant pis si ça choque, je ne veux plus avoir peur. Un homme est un homme, son cœur. J'ai le droit aussi, le droit d'être avec lui. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être
Voilà, nous allons maintenant parler de la Coupe du Monde de football. Et pour ça, je vous invite à aller sur le site amnesty.org. Donc, c'est le site anglais d'Amnesty International. Quand vous y allez, amnesty.org, vous verrez, il y a un onglet avec différentes langues. Parce que ce site est en anglais quand vous l'ouvrez, mais vous pouvez l'avoir en espagnol, en arabe et en français. Donc, vous cliquez sur « Français ». Et vous avez tout le site, tous les textes qui sont en français. Donc, sur ce site, amnesty.org, on nous demande d'interpeller la FIFA et les pays hôtes pour une Coupe du Monde sans peur et sans répression. En effet, les attaques contre les droits et les libertés transforment cette explosion de joie qui est la Coupe du Monde de football en véritable débordement de peur. Exigeons un meilleur événement. Interpeller le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, et les autorités des pays hôtes pour qu'ils façonnent une Coupe du Monde pour toutes et tous. Tous les quatre ans, des milliards de personnes se rassemblent pour parler la même langue, le football. Des cultures radicalement différentes, un spectacle partagé. Peu importe si vous êtes pour le Brésil ou pour Haïti, à quoi vous ressemblez ou qui vous aimez. La Coupe du Monde rassemble des personnes comme aucun autre événement. Le football, c'est ça. Et c'est à ça que peut ressembler l'humanité. Pourtant, ce rêve commun est menacé. Alors que la date du tournoi approche, les autorités des États-Unis, du Mexique et du Canada continuent à cibler les personnes migrantes, répriment des manifestations et éloignent les communautés déjà marginalisées. En 2025 seulement, l'administration Trump a expulsé plus de 500 000 personnes, soit plus de 6 fois le nombre de personnes qui assisteront sur place à la finale de la Coupe du Monde. Et les agents des services de l'immigration ont tué des migrants et des migrantes, manifestants et observateurs. Au Mexique, la mobilisation de l'armée fait peser des risques sur les manifestants pacifiques. Au Canada, les personnes sans abri sont repoussées encore plus en marge de la société. Dans les trois pays, les fans LGBTQI+, subissent discrimination, violence et harcèlement. Cette célébration mondiale risque d'être minée par la peur. Cela doit cesser. Les fans et les communautés locales devraient pouvoir célébrer librement. La FIFA a promis un tournoi pendant lequel tout le monde se sentira en sécurité, inclus et libre d'exercer ses droits. Pourtant, la répression et la division menacent d'occuper le devant de la scène. Le président de la FIFA et les autorités des pays hôtes doivent agir immédiatement. La Coupe du Monde appartient à chacun et chacune d'entre nous. Il est temps de tenir cette promesse. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un message au président de la FIFA, Gianni Infantino, et aux autorités des pays hôtes pour exiger qu'ils respectent les manifestations pacifiques, mettent un terme aux détentions et expulsions de masse et protègent tout le monde face à la discrimination. La peur ou la liberté, la division ou l'unité, la cruauté ou l'humanité. Notre choix est fait, nous choisissons de résister, l'humanité doit triompher. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site amnesty.org pour signer notre pétition. Nous allons maintenant écouter Slimane dans sa chanson « Résister ». Alors, il y a quelque temps, Odile et moi, nous étions au Palais Congrès pour assister à Digne d'éloquence, un concours d'éloquence organisé par le lycée Pierre-Gilles de Gênes et le lycée Alexandre Desvinel. Donc, on a écouté les 16 sélectionnés pour cette finale. Donc, il y en avait 8 de chaque lycée. Et déjà, dans ma dernière émission, j'ai passé un de ces jeunes. Et ce mois-ci, je vais passer la jeune Juliette Vanier pour le regard des autres. Car en fait, on s'est aperçu que le thème de ce concours, c'était « Ce soir, j'ai le courage de vous dire ». Et en fait, tous les textes dits avec brio par ces jeunes, en fait, portaient sur... les droits humains et la dignité humaine, la dignité que chaque personne devrait avoir et que ce soit respecté. Voilà. Alors, aujourd'hui, on écoute Juliette Vanier dans son texte « Le regard des autres ».
Naître différent, ce n'est pas une histoire que l'on choisit, c'est une histoire que l'on porte. Sur la peau, sur le visage, parfois même dans le silence de ceux qui n'osent pas nous regarder. C'est survivre à des regards qu'on aurait voulu ne pas comprendre, mais que l'on comprend toujours trop bien. Parfois, le silence faisait bien plus mal. On ne me disait rien, mais je comprenais tout. Un regard qui s'abat avant même un mot, et parfois, un jugement avant même une rencontre. Je suis née avec une particularité, une signature de la nature. Mais ce n'est pas tant ma différence qui a tracé ma route, c'est la manière dont la société m'a traitée, dont elle nous regarde, nous tous qui sortons un peu trop du cadre. Au XVIIIe siècle, dans les dictionnaires, la définition du mot monstre était quelque chose contre l'ordre naturel, anormal, mal formé, bizarre, effrayant. Alors, ce mot appelait tous ceux qui ne correspondaient pas à leurs normes. Ceux qui avaient un trait de moins ou un trait de trop, mais qui sont vraiment les monstres. La société, elle adore l'uniforme. Elle préfère les lignes droites, la symétrie, les silhouettes sans accroc, et quand quelque chose dépasse, quand quelque chose dérange, elle l'appelle par ce mot qui sonne bien trop fort. Mais ce mot ne dit rien de celui ou celle qu'il désigne. Il en dit seulement sur celui qui le prononce. Ce mot, il existe encore aujourd'hui. Parfois, il n'est pas dit, parfois, il n'est qu'un regard, mais il est là, derrière un murmure, derrière un sourire gêné. Moi aussi, un jour, j'ai cru être un monstre, parce qu'on me l'a fait croire. On a commencé à me réduire à ça, à un mot, à une idée, à une image, comme si tout ce que j'étais pouvait tenir dans une seule case. J'ai appris à lire les réactions avant les mots, à capter les malaises, les regards qui glissent, les gestes qui hésitent. J'ai commencé à me voir comme les autres me voyaient, comme si j'étais ma propre ennemie, comme si je devais prouver que j'avais ma place, ou au contraire, accepter que je ne l'avais pas. Est-ce que j'avais le droit d'être là, comme ça, sans m'excuser? Est-ce que j'avais le droit d'exister sans déranger? Est-ce que j'avais le droit d'être humaine, d'être autre chose que ce qu'on racontait de moi? Ces questions, ce ne sont pas seulement les miennes. Elles sont celles de tous ceux que vous regardez de travers, de tous ceux qui ne rentrent pas dans vos standards. Et je pense que nous sommes nombreux dans cette salle. On croit que la différence isole. En réalité, ce sont les autres qui isolent la différence. On peut réparer un corps, mais comment réparer une humanité qu'on vous a refusée? Et malgré tout cela, malgré l'étiquette, malgré la place trop étroite que l'on m'a accordée, malgré votre violence parfois silencieuse, je suis là, debout, devant vous, et terriblement humaine. Si humaine que je vous repose une question. Qui parmi vous n'a jamais eu le courage de me regarder comme je vous regarde? Alors ce soir, j'ai enfin le courage de vous dire que le monstre n'est pas dans mon visage, mais dans votre certitude d'être normaux.
Voilà. Encore un très beau texte de ces jeunes. On va parler maintenant de l'action du groupe Dinois. Donc, en été, on ne fait plus de réunions. Mais bon, le travail continue puisqu'on reçoit régulièrement des actions urgentes. Et chacun fait ses actions chez lui, envoie des courriers, justement, pour faire libérer une personne ou pour arrêter des tortures ou pire, pour essayer d'arrêter une condamnation à mort. On va préparer à la rentrée notre foire aux livres. Alors, vous avez remarqué que cette année, nous n'avons pas fait de foire aux livres au printemps. Parce qu'on a décidé de n'en faire plus qu'une par an, parce que c'est en fait beaucoup de travail et puis on vieillit tous, hein, comme tout le monde. Donc on a décidé d'en faire qu'une seule à l'automne et de l'ouvrir un peu plus longtemps. Donc notre prochaine foire aux livres aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 de 14h à 18h, puis le lendemain, le vendredi 16 octobre, de 9h à 18h, non-stop, là, ce sera ouvert toute la journée. Et le samedi matin, le samedi 17 octobre, donc, nous ouvrirons de 9h à 15h. Voilà. Donc, on a augmenté les plages horaires et vous verrez que nous avons énormément de nouveautés parce qu'on nous a fait des dons et on continue de nous donner des livres très intéressants. Voilà, donc, notre prochaine action, on reprendra nos réunions au mois de septembre. Et puis, également, l'émission pour la dignité au mois de septembre. Voilà, on va donc maintenant, pour terminer cette émission, écouter Gauvin Serre dans sa chanson « Monsieur le Président ».
Et merci, Régis, pour tes émissions. Allez, on se quitte donc avec Gauvin Serre.
Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère. Quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent aux écoles. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand? Monsieur le Président, si j'ose quelques vers peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran, et mesurer la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à quatre.